Vous écoutez On lit pour vous.
Autour des omnipraticiens et d'ex-parlementaires de s'opposer à l'idée de légiférer sur l'avortement. Un texte de Marie-Michel Sioui et François Carabin, paru le 10 février 2026 dans Le Devoir. La liste de groupes qui s'opposent à l'ajout d'une disposition sur l'avortement dans la Constitution du Québec s'allonge encore. Les médecins de famille et d'anciens parlementaires somment le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, de faire marche arrière. Judiciariser un soin de santé ne peut que nuire à son accès, écrit la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, dans une lettre déposée pour l'étude du projet de Constitution. La FMOQ reprend les mises en garde déjà formulées par le Barreau du Québec, le Collège des médecins, des centaines de médecins, la Fédération du Québec pour le planning des naissances et le Conseil du statut de la femme, entre autres. C'est précisément le fait de maintenir l'avortement dans le champ des soins de santé et à l'écart du judiciaire qui protège le soin lui-même, mais également les soignants qui le dispensent et les patientes qui en ont besoin, écrit la FMOQ. L'avortement ne relève pas davantage de la sphère législative que n'importe quel autre soin de santé, souligne-t-elle également. La FMOQ juge elle aussi que les protections actuelles fournies par les deux chartes et la jurisprudence sont les plus efficaces. Toute loi sur l'avortement peut, à terme, devenir une loi contre l'avortement. Une loi ou même un simple article, aussi bien intentionné soit-elle, crée une cible à attaquer, un point de ralliement pour les mouvements anti-choix, une norme à contester ou à modifier, note la FMOQ. En entrevue au Devoir, le président de l'association anti-avortement Campagne Québec Vie, Georges Buscemi, a d'ores et déjà affirmé que l'article proposé par M. Jolin Barrette deviendra une cible à abattre, s'il est bel et bien inclus dans la loi. Les quelques personnes qui ne s'opposent pas à la démarche du ministre, les constitutionnalistes Patrick Taillon et Amélie Binette, y voient une digue supplémentaire, notamment contre des tentatives venues d'Ottawa ou contre des volte-face de juges qui limiteraient le droit à l'avortement. Reprenant ici aussi les suggestions d'autres groupes, la FMOQ suggère au ministre Jolin Barrette de se concentrer sur les problèmes d'accès aux services d'avortement. La deuxième vice-présidente de la FMOQ, la Dr Lynn Couture, explique en entrevue que des femmes ont souvent à se rendre dans une clinique à deux reprises, parfois loin de chez elles, pour obtenir un avortement. Il s'agit d'autant de journées de travail ou d'école manquées, souligne-t-elle. Dans un monde idéal, ce serait bien que les femmes n'aient pas à manquer d'accès à la contraception à cause de moyens financiers, ajoute l'omnipraticienne. C'est toujours troublant d'avoir à diriger une femme vers un avortement quand elle s'est retrouvée enceinte faute de moyens financiers. D'ex-élus aussi. En consultation, le comité des femmes ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, qui s'exprimait au nom d'une cinquantaine d'anciennes élues de tous les horizons, a lui aussi joint sa voix à celle des nombreux groupes qui demandent de rayer la disposition controversée sur l'avortement. Dans les faits, cette liberté est protégée par une jurisprudence qui a fait ses preuves, peut-on lire dans le document. L'inscrire dans la Constitution, c'est prendre le risque qu'elle soit remise en question à l'occasion d'une révision de la loi fondamentale. Devant le ministre Jolin Barrette, l'avocate et ex-députée libérale Christiane Pelcha, qui signe le mémoire, a exprimé ses craintes que le remède soit pire que le mal. Comme tous les groupes de femmes, on pense que c'est une très mauvaise idée d'introduire l'article 29 dans la Constitution québécoise. Ce serait une atteinte aux droits des femmes à l'égalité que de laisser cet article-là tel qu'il est, a-t-elle dit. Véronique Pronovo, une doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, qui a infiltré un réseau de militants anti-avortement en Floride pour sa thèse, a pour sa part expliqué au ministre que les contestations judiciaires sont des moments forts de ralliement pour le mouvement anti-avortement. tout le monde parle d'une même voix pour vous dire de ne pas faire ça », a-t-elle lancé. Elle juge que le mouvement anti-avortement est 50 ans en arrière au Québec par rapport aux États-Unis, mais craint que la démarche de Québec vienne accélérer l'institutionnalisation de ce mouvement, qui utilise d'ailleurs les mêmes discours et stratégies de part et d'autre de la frontière. Au cours de l'échange, le ministre Jolin Barrette a dit ne pas être d'accord avec son interlocutrice, mais respecter son point de vue. C'était autour des omnipraticiens et d'ex-parlementaires de s'opposer à l'idée de légiférer sur l'avortement, un texte de Marie-Michèle Sioui et François Carabin, paru le 10 février 2026 dans Le Devoir.
Julien Lacroix et l'impossible retour. Un texte de Mario Girard paru le 25 mars 2026 dans la presse. La chose est frappante. Sur l'affiche du spectacle que Julien Lacroix devait présenter en rodage au cours des prochains mois, l'humoriste apparaît de manière floue, comme s'il voulait nous dire « il ne tient qu'à vous d'éclaircir l'image ». L'artiste, qui a été annulé à la suite d'un reportage du Devoir en juillet 2020, faisant état d'allégations d'inconduite et d'agression sexuelle, a voulu faire un pas de plus vers le public. Julien Lacroix savait qu'il pouvait compter sur une partie du public, mais il a sous-estimé une chose, l'assentiment du milieu. Producteurs, agents et artistes se sont vivement opposés à ce retour qu'il souhaitait faire par la grande porte avec Juste pour rire. La chose n'a pas du tout passé. Sitôt annoncée, l'entente a été annulée. Si sa tournée post-annulation, Le Temps au Temps, n'a pas fait de vagues, c'est que Julien Lacroix faisait ses affaires tout seul dans son coin. Salle modeste, budget limité. Néanmoins, 40 000 personnes ont assisté à ce spectacle dans lequel l'homme a pu aborder la question de son annulation et de son cheminement. Mais en raison de son association avec Juste pour rire, le milieu a eu l'occasion de signifier cette fois-ci son désaccord, parfois violemment. On ne veut pas de lui dans notre industrie. On ne veut pas être associé à ce gars, de près ou de loin. Dehors, les chiens, pas de médaille. Je sais que vous vous posez la fameuse question. Comment expliquer que des annulés réussissent à reprendre leur place et que d'autres se voient mettre des bâtons dans les roues? Je ne suis pas le premier à m'interroger sur ce qui peut justifier ou non un retour dans l'arène. Est-ce que Kevin Parent a le droit de reprendre sa place? Pourquoi Marie-Pierre Morin a-t-elle réussi son retour? Est-ce que Yann Perrault va un jour retrouver son public? Éric Lapointe est-il vraiment sincère? Bernard Adamus doit-il se contenter de minuscules salles pour le reste de ses jours? Tout comme vous, je me pose ces questions, tout en pensant aux victimes, femmes ou hommes, qui ont été agressées, humiliées et qui vivent avec ces stigmates. C'est cette difficile dualité qui nous empêche d'y voir clair, de faire la part des choses. Mais est-ce que ce brouillard nous donne le droit de refuser aux annulés une autre chance? Si oui, à quoi ça sert de se doter d'un système de réhabilitation et de réinsertion pour les délinquants et les criminels? Julien Lacroix, qui n'a fait l'objet d'aucune accusation formelle en justice, affirme qu'il a multiplié les thérapies pour régler ses problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Il a commencé à boire à l'âge de 12 ans, qu'il a consulté des psychologues, rencontré des féministes et engagé des dialogues réparateurs avec ses ex et ses anciens collègues. Je ne connais pas ce gars, je ne l'ai jamais rencontré, mais je reconnais son immense talent d'auteur et d'interprète. Ses spectacles ont fait un malheur et ses web-séries sont d'une drôlerie irrésistible. Le meilleur était à venir pour lui, et tout s'est écroulé. Son grand retour a-t-il été précipité ? Rappelons que l'humoriste a d'abord tenté de reprendre sa carrière en 2022. Sa conjointe et leur bébé, ayant reçu des menaces de mort, il a mis cela de côté. Ses retrouvailles avec la scène ont-elles souffert d'un accompagnement marketing ? Je reste persuadée que s'il avait travaillé avec un producteur indépendant pour cette prochaine étape, la chose aurait mieux passé. Dans toute cette affaire, on sent chez Julien Lacroix un irrépressible besoin de retrouver l'effet grisant de la gloire et de l'amour du public. Doit-on lui en vouloir? Quand on vend 125 000 billets comme il l'a fait avec la tournée « Jusqu'ici tout va bien » en 2019, on veut revivre ça. Alors pourquoi lui et pas un autre? Ça demeure une chose difficile à expliquer. On aura beau se doter de codes d'éthique comme l'a fait la DISC et comme est en train de le faire l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, ce code sera accompagné d'un comité qui se demandera si le public et le milieu sont prêts à revoir un artiste annulé au gala Les Oliviers. Il sera quand même difficile d'empêcher un mouvement populaire de contestation. Julien Lacroix a mis un terme à sa carrière vendredi soir au vieux clocher de Magog devant un public étonné. Il en était à sa troisième représentation de rodage après celle de Gatineau et de Saint-Lazare. L'ancien golden boy de l'humour n'a plus envie de se battre. Il n'a plus la force de prouver qu'il ne correspond plus au portrait qu'on a fait de lui. Un portrait qui a d'ailleurs été revu par Isabelle Haché de La Presse et Marie-Ève Tremblay du 98,5 FM, 2 ans après la publication du reportage du Devoir. Cette démarche a offert l'occasion à certaines dénonciatrices de nuancer leurs propos. Cette histoire est désolante, car elle nous dit que nous devons accepter de composer avec un bruit assourdissant qui ne laisse aucune place à la réflexion. Est-ce vraiment ce que nous voulons? C'était Julien Lacroix et l'impossible retour, un texte de Mario Girard paru le 15 mars 2026 dans La Presse.
Enregistrer les histoires avant qu'elles tombent dans l'oubli. Un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 9 mars 2026 dans La Presse. Il y a des histoires qu'on a entendues 1000 fois, mais qu'on n'a jamais enregistrées. En lisant cette phrase, probablement que des légendes familiales ou des anecdotes comiques vous viennent en tête. C'est justement pour éviter que ces souvenirs tombent dans l'oubli que Denis Kastrop a créé l'entreprise « Ma vie en audio ». L'idée a germé quand un de ses amis proches, papa d'un enfant de 1 an, a reçu un diagnostic de cancer. Je lui ai demandé « Ça te dit qu'on fasse une entrevue une fois par mois et qu'on enregistre ce dont on parle? » C'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. Malheureusement, il est mort alors que son enfant n'avait aucune idée de qui est son père, raconte Denis Kastrop. Les enregistrements seront donc confiés au fils lorsqu'il aura 16 ans pour qu'il puisse le connaître. Arrivé au Québec en 2017, Denis Kastrop est journaliste spécialisé en art et en technologie. Il travaille principalement pour des médias de son pays d'origine, l'Allemagne, et l'enregistrement de la vie de son ami avait fait l'objet d'une émission à la radio. Beaucoup de gens m'ont approché pour me dire qu'ils trouvaient ça beau, qu'ils aimeraient le faire avec leur père ou leur mère, ou qu'ils aimeraient faire ça pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est de là qu'est née l'idée de « Ma vie en audio », raconte-t-il. Pour réaliser l'enregistrement, Denis Kastrop passe environ 5 heures à discuter avec la personne en lui demandant de raconter sa vie de façon chronologique, puis en lui posant des questions et en l'aidant à structurer le récit. À la fin, il fournit l'enregistrement intégral découpé par questions et accessible sur une page web protégée par un mot de passe. Le tout est, bien sûr, téléchargeable. L'enregistrement vient avec un livre où il est possible de mettre des photos de la personne. Il contient une puce qui ouvre automatiquement le site lorsqu'on approche son téléphone. Dans un monde où tout est numérique, j'adore pouvoir tenir quelque chose dans mes mains, dit Denis Kastrop. Il a choisi un fournisseur montréalais qui fait des livres avec des machines traditionnelles pour ajouter à l'aspect artisan du produit. Un domaine convoité par l'IA. L'accent est mis sur la qualité, avec des forfaits qui commencent à 2 000 $. Denis Kastrop ne le cache pas. Plusieurs services d'intelligence artificielle proposent un produit semblable au sien. Un avatar IA pose des questions et la personne s'enregistre en train de répondre. Il croit néanmoins que le contact humain amène une valeur ajoutée à ce type de service. Je trouve que si tu parles avec un téléphone, tu le fais différemment. Je veux pouvoir sentir ce que ressent la personne, la voir, réagir à ce qu'elle dit, explique-t-il. Il se rend d'ailleurs chez les gens pour faire l'enregistrement et parfois la personne se lève spontanément pour lui montrer quelque chose ou devient émotive. Tout au long de sa carrière, le journaliste a passé en entrevue des vedettes de renommée internationale comme Adele, Lady Gaga et Lenny Kravitz. Aujourd'hui, il préfère approfondir l'histoire de gens ordinaires. J'adore les histoires. Écoutez ce que les gens ont vécu. Il y a des histoires qu'on a entendues 1000 fois, mais qu'on n'a jamais enregistrées. Et ça vaut la peine de les enregistrer avec une personne objective, estime-t-il. Pour le moment, Denis Kastrop mène le projet seul. Le service est offert en français, en anglais et en allemand. Il propose aussi l'option d'un témoignage filmé. Pourquoi ma vie en audio? Parce que penser à sauvegarder l'histoire et la voix de ses proches, c'est précieux. En plus, dans un domaine où l'IA est partout, ça prend du cran pour tenir à mettre l'humain au centre de son offre de service. C'était « Enregistrer les histoires avant qu'elles tombent dans l'oubli », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 9 mars 2026 dans La Presse.
Démasquer la désinformation, un texte d'Eliot Lévy, publié le 11 janvier 2026 dans La Liberté. Le virage au numérique a depuis plusieurs années maintenant créé un paradoxe intéressant. Nous vivons dans une surabondance d'informations où la fiabilité se fait de plus en plus rare. Les termes « désinformation » ou « mésinformation » sont donc de plus en plus utilisés afin de décrire plus précisément le détournement des informations. Malgré leur orthographe similaire, la principale différence entre ces deux termes se trouve dans l'intention derrière la propagation de fausses informations. Par désinformation, on entend une information qui est propagée dans le but de désinformer. L'intention y est, dit Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation chez Habilo Média. Mais si moi-même je suis dupé par la désinformation et que je sens que je me dois de la partager, je suis en train de propager une mésinformation. Naviguer les fausses informations. Marc-Alexandre Ladouceur souligne d'abord l'importance de ne pas se laisser submerger par un processus de vérification trop compliqué. Non seulement les gens sont généralement intimidés à l'idée de devoir vérifier tous les faits, mais ils n'ont souvent pas les compétences techniques nécessaires pour le faire à chaque fois. Il recommande plutôt de prendre de bonnes habitudes en matière de vérification. Cela revient à adopter des pratiques de cyberhygiène en accord avec ses valeurs personnelles de navigation en ligne. La formation des habitudes va beaucoup avec ce qu'on fait avec les jeunes dans les écoles. Le langage des habitudes risque de donner une perspective et un but plutôt que juste des règles à suivre qui donneraient un cadre, mais pas nécessairement le pourquoi derrière. Par exemple, l'une de ces habitudes pourrait être de mettre en pratique le principe que si c'est assez bon pour être partagé, ça vaut la peine de le vérifier. Le fait de vouloir participer activement à la limitation de la propagation de fausses informations peut être un bon moteur pour activer le réflexe d'être plus prudent. Cette vérification peut être assez rapide. Habilo Média cite un processus rapide en 4 étapes. Effectuer une analyse rapide du lien partagé, trouver la source originale de l'information, faire une recherche Google pour voir ce qui est dit et utiliser des outils de vérification des faits comme Snopes. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de vérification en ligne, Habilo Média propose aussi une session de formation plus longue dans le cadre de son atelier « Faut que ça cesse », qui représente différents styles de vérification rendant la vérification des faits moins intimidante. Une bonne pratique à mettre en œuvre consiste à se poser les bonnes questions, ce que Marc-Alexandre Ladouceur appelle « l'humilité intellectuelle ». 1. Qu'est-ce qui fait que je veux croire à cette information ? 2. Qu'est-ce qu'il faudrait pour me faire croire autrement ? Et 3. Comment est-ce que la manière dont c'est communiqué me fait croire à cette information ? Et bien que chacun soit responsable de mettre en pratique ses compétences en matière de vérification en ligne et de pensée critique, les recherches montrent que les utilisateurs d'Internet plus âgés ont tendance à croire plus souvent aux fausses informations en ligne. Cela dit, les jeunes internautes ont tendance à avoir un volume de partage beaucoup plus important et des réseaux en ligne plus étendus. Les études démontrent donc l'importance d'une éducation à la littératie numérique forte dès le plus jeune âge, ainsi que d'un soutien et de ressources continues tout au long de la vie adulte. Désinformation et cynisme. Cela dit, la recherche indépendante peut être un couteau à double tranchant. Si beaucoup prônent le fait de faire ses propres recherches lorsqu'il s'agit de vérifier des informations en ligne, cette expression a souvent été détournée dans le but de discréditer toutes les informations que l'on trouve sur Internet. Les recherches ont démontré que le but de la désinformation, ce n'est même pas de faire croire à la fausse information, mais plutôt de réduire la crédibilité de toute source afin qu'il n'y ait aucune valeur à vérifier, même les sources que l'on considérait fiables auparavant. L'objectif est donc le cynisme. Et mettre l'accent sur la nécessité de faire ses propres recherches est un moyen d'atteindre ce but, dans la mesure où cela souligne le caractère peu fiable de toutes les sources. C'est une expression qui renverse le vocabulaire de la pensée critique afin d'imposer l'idée que toute information est coupable d'être fausse jusqu'à preuve du contraire. Si je suis assez cynique pour croire qu'il n'existe plus de sources fiables, je suis prêt à croire à peu près n'importe quoi qui résonne seulement avec mes valeurs parce que je deviens l'arbitre de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Faire ses propres recherches est une expression attrayante, mais Marc-Alexandre Ladouceur avertit que personne n'a la capacité de mener des recherches précises et approfondies sur la variété de sujets que l'on peut trouver en ligne. Personne n'est assez doué pour évaluer les sources et reconnaître les biais dans tous les domaines. Je n'ai pas la capacité d'aller lire un article d'immunologie ou de sciences politiques et de savoir si on a utilisé toutes les bonnes méthodologies. Ça ne fait pas partie de mon parcours, dit-il. Mais ça fait partie du parcours, par exemple, de ceux qui font des articles de vulgarisation. C'est aussi la spécialité des journalistes de faire le tri des informations. C'est là que les sources traditionnelles entrent en jeu. Même si les journalistes peuvent commettre des erreurs ou mal interpréter des études, ils sont généralement soumis à des codes déontologiques qui garantissent qu'ils devront assumer les conséquences s'ils publient des informations erronées. Marc-Alexandre Ladouceur met tout de même en garde contre le fait de se fier excessivement à une seule source, d'où l'importance de vérifier les informations à l'aide de plusieurs sources. Désinformation et IA. Bien sûr, l'introduction de contenus générés par l'intelligence artificielle en ligne a exacerbé la création et la propagation de fausses informations sur Internet, notamment les contenus hyper-truqués et les arnaques. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la désinformation est un phénomène qui existait avant l'IA et qui peut être très néfaste sous toutes ses formes. Tout au plus, l'IA a simplement facilité la création de fausses informations plus crédibles. Cependant, la popularisation de l'IA est aussi devenue un puissant vecteur de mésinformation. Beaucoup peuvent, en agissant de bonne foi, demander à l'IA de produire des informations sourcées qui peuvent ne pas être exactes et diffuser involontairement de fausses informations alors qu'ils pensaient avoir effectué des vérifications nécessaires. Cela nous rappelle que l'IA est extrêmement susceptible à des hallucinations, le terme utilisé pour désigner les informations inventées par l'IA, même lorsqu'elles semblent être des informations réalistes. Marc-Alexandre Ladouceur souligne toutefois l'importance de l'IA en tant qu'outil qui a contribué à démocratiser l'accès à l'information, dans la mesure où elle facilite considérablement la recherche d'informations. Les outils d'IA peuvent notamment combler le déficit de compétences des personnes qui ont des difficultés à écrire et à lire et qui rencontrent des problèmes de navigation en ligne. Si on continue de consommer de l'information de façon passive, c'est vrai qu'on peut penser à l'IA comme ceux qui font sonner l'alarme. Mais si on y va d'un point de vue critique et éducatif, je vois de belles possibilités. C'était « Démasquer la désinformation », un texte d'Eliott Lévy, publié le 11 janvier 2026 dans La Liberté.
Où les punaises font-elles leur lit à Montréal? Un texte de Sarah Boumeda, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir. Dans un rapport rendu public le vendredi 13 mars 2026, le comité logement de la Petite Patrie somme la Ville de Montréal de mieux faire respecter les règlements de lutte contre les infestations puisque la population de punaises de lit continue de proliférer dans les logements de la métropole. Quels quartiers sont les plus touchés? Quelle est la situation générale? Regard en données. Entre 2014 et 2024, la Ville de Montréal a recensé 41 750 interventions contre les punaises de lit sur son territoire. Il est cependant difficile de mesurer l'ampleur réelle du problème, puisque ce ne sont pas tous les exterminateurs qui déclarent leurs interventions. À partir des données ouvertes de la ville, on obtient tout de même un portrait, certes limité, de la situation, sur la période qui s'étend de juillet 2011 à décembre 2023. Le quartier Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, se distingue avec un nombre record de déclarations, soit 3018. Les secteurs Maisonneuve, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, et Crémazy, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, se classent aussi parmi les quartiers les plus touchés, avec respectivement 1865 et 1790 déclarations. À noter que, selon les données disponibles, une déclaration peut comporter plus d'une extermination menée à un même endroit et que chaque extermination peut viser plus d'un logement à la fois. Entre 2011 et 2023, au moins 90 000 logements ont été traités contre les punaises de lit à Montréal, selon la ville. Les données des logements traités suivent celles des déclarations. Les secteurs Sainte-Marie, Maisonneuve et Crémazy enregistrent le plus grand nombre d'interventions. Les données municipales indiquent une baisse dans le nombre de déclarations d'infestation aux punaises de lit entre 2013 et 2020. Une période d'accalmie a pu être constatée pendant la pandémie de COVID-19 par le comité logement de la Petite Patrie. Le nombre d'infestations semble toutefois être reparti à la hausse depuis, selon l'organisme communautaire. En 2018, la Ville de Montréal avait adopté un plan d'action de lutte contre l'insalubrité des logements pour renforcer ses mesures de contrôle en augmentant notamment le nombre d'inspections. Mais le comité logement juge ces actions insuffisantes. C'était « Où les punaises font-elles leur lit à Montréal? » Un texte de Sarah Boumeda, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir.